Au sommaire de ce journal, la reprise des attaques de missiles contre des terroristes anti-iraniens basés dans le nord de l'Irak. L'opération se poursuit jusqu'au démantèlement du quartier général des terroristes, selon le corps des gardiens de la révolution islamique. La police de Londres publie des images de 13 suspects impliqués dans des violences lors d'une récente manifestation devant l'ambassade d'Iran. Et puis Hossein Amir Abdollahian, chef de la diplomatie iranienne, et le diplomate onusien Martin Griffiths discutent de la situation humanitaire au Yémen, en Afghanistan et en Syrie. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. La reprise des attaques de missiles contre les terroristes anti-iraniens basés dans le nord de l'Irak, la base Hamza Sayed al-Shohada des forces terrestres du CGRI, corps des gardiens de la révolution islamique, a commencé ce mercredi matin la nouvelle série d'attaques contre les positions et les quartiers généraux de groupes terroristes anti-iraniens basés dans la région nord de l'Irak. La base des forces terrestres du CGRI a commencé depuis ce matin la nouvelle série d'attaques contre les positions et les quartiers généraux de groupes terroristes anti-iraniens basés dans le nord irakien. Selon le rapport, dans ces opérations, les 360 missiles des forces terrestres du CGRI, les drones suicides de l'organisation de combat de cette force, ont été utilisés pour cibler le quartier général et les lieux de rassemblement des terroristes. Il convient de noter qu'à la suite des tentatives des groupes terroristes et séparatistes basés dans la région nord-irakien pour semer le chaos et l'insécurité dans le pays, les forces terrestres du CGRI ont lancé une série d'opérations contre les emplacements des éléments de ces groupes terroristes depuis le 24 septembre et selon les informations reçues, ces opérations sont toujours en cours. En outre, le CGRI a annoncé la poursuite de ces opérations jusqu'au démantèlement du quartier général des groupes terroristes. Sachez également que s'agissant des bombardements menés dans le Kurdistan irakien, l'adjoint aux opérations du CGRI a déclaré, dixit, « Nous ne nous permettons en aucune circonstance que des menaces se forment dans le pays et nous avons annoncé à tout le monde que nous toucherons à tout moment l'origine de l'opération contre notre pays ». Selon cette autorité militaire, le quartier général bombardé dans la région nord de l'Irak a joué le plus grand rôle dans les récents troubles en Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et s'est entretenu avec le mardi heure locale. Selon l'IRNA, en raison des appels téléphoniques multiples et continus entre le ministre iranien des Affaires étrangères et le secrétaire général de l'ONU, concernant les questions liées à la politique étrangère, régionale et internationale, cette rencontre a eu lieu pour donner suite à des questions d'intérêt commun. Les derniers développements liés au pourparlers pour la levée des sanctions ont été discutés et des points de vue ont été échangés à cette occasion. Concernant les pourparlers sur la levée des sanctions, Amir Abdollahian a déclaré « De nombreux progrès ont été réalisés et nous pensons qu'un accord peut être trouvé si la partie américaine est réaliste ». Antonio Guterres a souligné pour sa part, dixit, « Nous avons toujours soutenu le retour de toutes les parties à l'accord nucléaire » avant d'ajouter « J'espère que nous le verrons bientôt ». Se référant au système démocratique de la République islamique d'Iran, Amir Abdollahian a déclaré « La manifestation pacifique est le droit du peuple, mais la manifestation pacifique est différente du chaos et de la perturbation de l'ordre public du pays ». Sachez également que Hossein Amir Abdollahian a rencontré le président de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre iranien des Affaires étrangères, a rencontré mardi à New York le président de l'Assemblée générale des Nations unies. Sachez également que le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et un responsable de l'ONU à New York se sont rencontrés pour discuter de la situation humanitaire dans le monde, en particulier au Yémen, en Afghanistan, en Syrie et en Ukraine. Lors de la rencontre avec le sous-secrétaire général des Nations unies aux affaires humanitaires et coordinateur de secours d'urgence, Martin Griffiths, Amir Abdollahian a déclaré « La situation au Yémen est très déplorable. L'ONU devrait prêter attention à la levée du blocus du Yémen ainsi qu'à faciliter le dialogue politique entre les factions yéménites afin de renforcer le cessez-le-feu dans ce pays déchiré par la guerre. » Les deux parties se sont également penchées sur les évolutions politiques et des situations humanitaires en Afghanistan et en Syrie. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Aucune puissance au monde n'ose violer les frontières iraniennes. Le coordinateur adjoint de l'armée iranienne, le contre-amiral Habibullah Sayeri, a déclaré lundi qu'aucune puissance au monde n'osait violer les frontières iraniennes et l'intégrité territoriale du pays. Le coordinateur adjoint de l'armée iranienne, le contre-amiral Habibullah Sayeri, a évoqué la présence de la marine iranienne en haute mer et a déclaré que cette présence est révélatrice de la capacité, des connaissances et du pouvoir élevé des enfants iraniens. Toutes les puissances mondiales sont pleinement conscientes de la puissance de la nation iranienne et du système islamique, et qu'aucune d'entre elles ne pense même à la moindre violation du territoire iranien, a-t-il ajouté. L'amiral a noté que la marine iranienne assure la sécurité des navires iraniens en haute mer et a jusqu'à présent effectué quelques 150 opérations d'escorte pour 5000 navires en haute mer. Dans un article publié le 26 septembre dans les colonnes de Mint Press, le journaliste Kent Kleinberg écrit « Le 16 septembre, deuxième jour du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, dans la ville historique ouzbek de Samarkand, le président chinois Xi Jinping a appelé les membres de l'Organisation d'Asie centrale à travailler ensemble pour empêcher les forces extérieures d'inciter à l'insécurité et aux révolutions de couleur dans la région. Il a proposé de former 2000 policiers spécialisés dans un centre de formation régional afin de renforcer les capacités d'application de la loi parmi les pays membres. Ces commentaires étaient étrangement fortuits, car en quelques heures, des émeutiers sont descendus dans les rues de Téhéran et d'autres grandes villes iraniennes, se livrant à la violence et au vandalisme. Une semaine plus tard, malgré les manifestations de plusieurs millions d'Iraniens et l'arrestation des fauteurs de troubles et surtout de leurs meneurs, les émeutes sans direction ni revendication se poursuivent sporadiquement, caractérisées par des scènes de casses violentes, comme la destruction d'une ambulance transportant des policiers loin du lieu d'une émeute. Or, pour les résidents de l'ancienne sphère soviétique, ces scènes seront familières. Après tout, c'est sur ces terres que, depuis le début du siècle, plusieurs gouvernements ont été évincés lors de soulèvements codés par couleur, par exemple la Révolution rose de 2003 en Géorgie, la Révolution orange de 2004 en Ukraine et la Révolution des tulipes de 2005 au Kirghizistan. Elles ont commencé toutes par des manifestations de rue, virées en émeutes. Invariablement aussi, ils ont été présentés dans les médias occidentaux comme des explosions spontanées et organiques de volonté populaire, motivées par une demande locale écrasante pour les droits de l'homme, la démocratie et la liberté, autre production langagière du genre auquel l'Occident habituait le monde sans en sentir lié le moins du monde. Dans tous les cas, ce sont des régimes autocratiques et impopulaires soutenus par l'Occident qui ont remplacé les administrations évincées qui n'ont rien fait pour faire avancer les causes de l'humanitarisme, du progrès ou de la liberté, mais ont seulement travaillé pour promouvoir les intérêts financiers et géopolitiques occidentaux, supplanter la souveraineté nationale sur les industries clés et secteurs économiques et réduisent leur pays et leurs citoyens à des vassaux de l'Empire US. Mais qui est le principal moteur de ces révolutions de pacotille ? Une agence gouvernementale américaine, fondée en novembre 1983, appelée la Fondation nationale pour la démocratie, ou Fed. William Casey, alors directeur de la CIA, était au corps de sa création. Il a cherché à construire un mécanisme public pour soutenir les groupes d'opposition ou, en d'autres termes, des fauteurs de troubles ou carrément des milices terroristes, ainsi que les médias à l'étranger qui s'engageraient dans la propagande pour perturber, déstabiliser et finalement déplacer les gouvernements ennemis. Au fait, alimenter des préoccupations frauduleuses concernant les droits de l'homme est une stratégie bien établie du cheval de Troie américain et la première étape de l'attentat contre l'autorité étatique par la NED qui déclare un pays non conforme en violation des droits de l'homme. Puis vient la propagande qui discrédite les transgresseurs. Et dès qu'un gouvernement a été diabolisé de manière appropriée, des mesures diplomatiques, politiques, de propagande médiatique et économique sont appliquées pour le forcer à suivre la ligne sous peine de quoi la NED irait plus loin. Que la NED surveille de près les événements à Téhéran est évident. Le 22 septembre, l'organisation a exhorté les personnes intéressées par la couverture de la montée des émeutes en Iran à suivre son bénéficiaire de la subvention, le Centre Abdurrahman Bourmand. Les conditions des subventions de la NED de l'organisation montrent qu'il a reçu des centaines de milliers de dollars depuis 2016 pour promouvoir l'éducation, le discours et le plaidoyer en matière des droits de l'homme et de démocratie. Le Centre Abdurrahman Bourmand renforce sans aucun doute les tentatives de la NED d'étranger et d'armer des avocats en Iran en tant que fantassins. Au cours des dernières décennies, le Laofar est devenu une tactique de déstabilisation de plus en plus populaire pour Washington, avec des effets souvent absolument dévastateurs. L'opération Lavajoto au Brésil a vu de nombreuses personnalités politiques populaires de gauche emprisonnées et des entreprises nationales prospères paralysées sous de fausses accusations de corruption, provoquant à leur tour des ravages dans l'économie du pays et inaugurant leur règne de Jair Bolsonaro. En réalité, le groupe de travail était lui-même composé d'avocats corrompus qui ont reçu une formation approfondie et une direction dans leur activité de la part du ministre américain de la Justice et du FBI. Il peut être significatif que le 19 septembre, le Washington Post ait révélé que le CENTCOM du Pentagone, qui couvre toutes les opérations militaires américaines dans la zone centrale du globe, auditer toutes ces activités de guerre psychologique en ligne après qu'un certain nombre de faux utilisateurs aient été exposés publiquement et interdits par Facebook. Parmi les comptes supprimés figurait une fausse plateforme d'information partageant du contenu publié par le média de propagande américain VOA Farsi, persan. Mais est-ce que cela marchera en Iran? S'il est vrai que la NED avance avec le temps et qu'il compte surtout sur des milliers de jeunes et d'adolescents iraniens, il est aussi vrai que l'État et la nation iraniens n'en sont pas à leur première bataille contre les États-Unis. En 2008 et 2009, à l'époque de Facebook, le même procédé a été utilisé à outrance et sous prétexte d'une présidentielle frauduleuse. Les réformateurs de l'époque sont aujourd'hui les bannis du peuple iranien. L'affaire Mahsa Amini ne fait pas l'exception à la règle, car la CIA se trouve là face à un peuple au profil particulièrement complexe et qui sait comment faire l'échec au coup ennemi, aussi hybride soit-il, sur tous les plans.